Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la 34e édition de notre cycle Les Dor Vador, la musique hébraïque de génération en génération. Bonjour Léo.
Bonjour.
Comme chaque semaine, nous nous retrouvons autour de la table d'enregistrement à la radio avec mon fils Léo pour partager avec vous, cher public, quelques-unes de mes expériences musicales avec la musique hébraïque. En donnant suite à notre parcours chronologique et géographique, on continue notre exploration aux États-Unis, où la musique juive au XXe siècle, la Jewish music, comme les Américains désignent toutes les musiques d'origine hébraïque, prend une importance de tout premier plan au niveau mondial. Et comme pour la musique en général, et plus particulièrement pour la musique classique, les musiciens juifs venus d'Europe, avec leur expérience appréciée et reconnue, occupent pendant la première moitié du siècle, du XXe siècle, une place de premier ordre. Nous avons vu lors des dernières émissions comment les courants progressistes du judaïsme américain accueillent avec bienveillance les tendances musicales venues de la tradition synagogale européenne, intégrant et favorisant la création de nouvelles œuvres pour la liturgie. Ces œuvres font alors la synthèse des esthétiques anciennes et modernes. Mais du côté des communautés orthodoxes, l'intérêt n'est pas moindre. Un exemple parmi les plus intéressants mérite d'être mieux connu, celui du Chazan, compositeur et chef d'orchestre, Zeidel Rovner. Comme à l'habitude, Léo va nous illustrer sur notre sujet en nous donnant quelques informations sur la vie et l'œuvre de ces musiciens hors pair.
Zeidel Rovner, de son vrai nom Jacob Samuel Maragowski, né à Randomysl en Pologne en 1856. Il acquiert une grande popularité sous le nom de Zeidel, qui est le diminutif de Zeide, le grand-père en yiddish, et Rovner, qui veut dire de la ville de Rovno, donc c'est la ville en Russie où il devient populaire. À la mort de son père et lorsqu'il est âgé de 17 ans, il est encouragé par les rabbins du mouvement chassidique à se consacrer au chant synagogal. Malgré ses réticences, il devient un grand cantor à Kiev, la capitale de l'Ukraine, pendant 5 années consécutives. Puis il est encouragé à prendre des cours de musique avec un fameux violoniste de la ville, et après une courte formation, il devient un compositeur et chef de chœur et orchestre renommé. En 1881, donc, il enchaîne des postes importants de cantor dans les villes de Sazlavl, à Rovno, Ichinev, Berichev, et il a des engagements à Londres et plus tard à Lemberg, de nouveau en Ukraine.
Voilà, Lemberg qui est aujourd'hui la ville de Lvov. Voilà.
Enfin, en 1911, il revient à Rovno où il avait passé 3 ans. Et quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914, il émigre définitivement aux États-Unis où il officie surtout à New York, principalement pour les grandes fêtes. C'est là où il fait publier une importante quantité d'œuvres. Dans sa production, on retrouve de nombreuses œuvres liturgiques avec orchestre destinées à des performances de concerts qu'il dirige en grande quantité. Il meurt à New York en 1943.
Merci Léo pour toutes ces informations très intéressantes, certainement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, qui connaissent Zeidel Rovner.
Moi, je ne connaissais pas.
Mais tu vois. Nous allons à présent découvrir celui qui constitue pour moi les grands chefs-d'œuvre de Rovner, son Emes ve'Emuno, Vérité et foi, qui est une prière centrale dans la série des 18 bénédictions, la Shemoneh Esrei, extrait des offices du soir, qui se termine par le cantique de la mer rouge. Écoutons donc à présent les débuts de cette œuvre pour chœur et chazan. Les premières 3 minutes des 9 et demi qui dure l'œuvre. La version est celle des polyphonies hébraïques de Strasbourg et qui a été donnée en 2015 à l'église de Herrlisheim dans les Bas-Rhins. Ont participé des musiciens professeurs de l'école municipale des musiques et des danses de la commune, à la flûte traversière Dorte Goodman, à la clarinette Benjamin Mayer et dans les parties des mezzo-soprano Irina Zaripov, professeur de chant à l'école des musiques à l'époque. Aux grandes orgues de l'église Saint-Arbogast de Herrlisheim, Michel Hild, la partie soliste principale, la partie de Chazan, est assurée par la soprano Rebecca Lones, soliste attitrée de l'ensemble. Et puis voilà donc la première partie, la première section de cette grande composition. Avant de continuer avec la suite, j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert cette partition qui n'est pas du tout connue en Europe ni en Israël. Emes Vehemoun du compositeur Zeidel Rovner faisait partie du répertoire choral de la grande synagogue de la rue Pazo à Buenos Aires, où j'ai été admis en tant qu'enfant alto à l'âge de 9 ans. Tu savais, Léo?
Oui, oui.
Un tout petit peu, voilà. Et je suis resté jusqu'à ma mue, peu après mes 14 ans. Il s'agissait d'un chœur professionnel qui participait chaque semaine aux offices de Shabbat et aussi lors de toutes les fêtes importantes de l'année liturgique, en plus des mariages et autres célébrations importantes. Tous les choristes, parmi lesquels se comptait mon père, lisaient les nombreuses partitions d'un important répertoire choral qui avait été progressivement introduit par des chefs de chœur et des éminentes chazanim venus d'Europe et des États-Unis et mis en place dans les années 50 et 60. Je me suis donc aperçu, jeune musicien pianiste que j'étais au tout début des années 70, que cette partition en particulier était tout à fait exceptionnelle par ses qualités musicales rares. Je me suis demandé alors qu'est-ce qu'une œuvre d'une telle envergure faisait en plein milieu des offices, puisqu'elle avait une force, une puissance et une beauté dignes des salles de concert. À l'époque, je ne connaissais presque pas la musique de Johannes Brahms, mais lorsque plus tard j'ai découvert le deuxième concerto pour piano et orchestre du grand compositeur allemand, ma surprise a été grande de constater combien Rovner s'était inspiré du deuxième mouvement de cette œuvre-là. Enfin, c'est ce que j'en avais déduit à l'époque et que je continue à penser encore aujourd'hui. Écoutons alors, pour constater ce que j'avance, les débuts de ces magnifiques deuxième mouvement du concerto numéro 2 de Brahms. Tu vois, Léo, pourquoi je me suis enthousiasmé dès mon plus jeune âge pour ce type de musique synagogale que je sentais très proche de la musique classique et romantique, musique que j'apprivoisais de plus en plus, mais destinant à devenir musicien de métier. Quand j'ai entendu tarararamp, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, c'est la même chose. Bon, c'est alors que lors d'un stage d'été de plusieurs semaines auquel je participais à l'âge de 20 ans, en jouant du piano avec des jeunes musiciens de mon âge en début de carrière, j'ai décidé de réécrire la composition de Zeidelrovner, que j'avais gardée précieusement, pour un orchestre à cordes, afin de la faire jouer à mes camarades violonistes, altistes et violoncellistes qui participaient à ces stages. Les stages qui avaient lieu au camping musical Bariloche, dans le sud de l'Argentine, en pleine Patagonie, dans la région des lacs au bord de la cordillère des Andes. Ça fait rêver tout ça. Hein? Voilà. Et c'est là où on a tourné Bambi. Hein? Les Walt Disney s'est inspiré de ces lacs-là, de la forêt de Bariloche, pour tourner Bambi. Voilà, entre parenthèses. Dessiné. Sans rien dire, à propos... Oui, qu'est-ce que tu disais ?
Non, dessiné, parce que c'est...
Oui, dessiné, oui. Mais c'est inspiré clairement de là, et ça a été dit. Sans rien dire, à propos de l'origine de l'œuvre, j'ai dirigé la pièce avec les consentements de mes jeunes camarades. L'œuvre a eu un accueil avec des compliments très favorables de la part de tous les exécutants, ce qui m'a ravi et a confirmé mes intuitions quant à la qualité musicale que j'avais devinée en l'étudiant. Je vous propose à présent d'écouter la deuxième partie, la deuxième section de ces morceaux « Emes Vehemuno ».
Thank you.
Voilà, on est parti déjà sur la section suivante. La deuxième section, qui vient de se terminer, montre une partie importante des parties solistes. Hein, tu as entendu, il y avait un duo avec deux voix de solistes, et puis encore un solo. Et la section suivante, la section qui va suivre, nous fera entendre un fugato. Tu sais ce que c'est un fugato, Léo?
J'ai oublié.
Voilà, un fugato qui est une petite section fuguée, hein, une petite fugue, hein, avec les imitations propres du style contrapuntique savant de la musique baroque, hein, les imitations, les fugues, tout ça. Style qui s'est perpétué dans la musique du 19e siècle et du 20e siècle, souvent comme une forme d'hommage à des maîtres du passé. Je vous propose maintenant d'écouter la troisième section. Vous avez entendu comment, hélas, l'enregistrement a été coupé juste avant la fin de ce solo d'alto, qui était ici chanté par Irina Zaripov. Il y a eu en effet un souci technique, puis l'enregistrement a redémarré quelques secondes après sur la section chorale suivante que nous rattrapons ici, en plein milieu, pour écouter la fin du morceau.
Thank you.
Voilà, nous écoutons les applaudissements nourris, hein, parce qu'il s'agit bien sûr, avec tous les bruits qu'on a entendus du public, les tous et autres applaudissements et autres, et un concert live, hein, comme on a annoncé à l'église de Herrlisheim, dans les Bas-Rhin. C'est ainsi donc qu'il se complète cette œuvre exceptionnelle et cependant typique du répertoire de l'Europe de l'Est à l'âge d'or de l'art cantorial de la fin du 19e et du début du 20e siècle, alternant dans les grandes compositions synagogales successivement des sections chorales et solistes, des duos, parfois aussi des trios, et surtout une belle diversité des mouvements contrastés des rythmes, des danses caractéristiques de l'époque. Et il n'y a pas une question qui te vient à l'esprit, Léo, par rapport à ce que j'ai dit, que c'était un monsieur, presque un rabbin avec une grosse barbe blanche, et c'était quelqu'un élevé dans le chassidisme, qui était orthodoxe, religieux. Comment ça se fait, toutes ces voix des femmes qui chantent, hein? Oui, c'est une question que beaucoup d'auditeurs doivent se poser. Et figure-toi que cette œuvre a été écrite pour les concerts. Lui-même dirigeait des concerts avec des orchestres et des chœurs. Et je n'ai pas les témoignages de l'époque. J'ai vu juste des affiches, hein, qui annonçaient à la période justement de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il est mort en 1943. Et juste avant, il dirigeait ses concerts publics. À mon avis, dans les concerts, ça ne posait pas des problèmes de faire chanter les femmes. Et sur les partitions, on trouve très clairement alto, soprano et des parties solistes qui sont bien confiée à des voix des femmes. La partie principale de Chazan était certainement confiée à un ténor ou un baryton, mais bon, rien n'empêche de faire chanter des solistes soprano à la place des ténors ou vice-versa. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Léo, hein, on a écouté un seul morceau, mais tu as vu ô combien imposant.
En plus, on aurait dit qu'on avait écouté plusieurs morceaux tellement il y avait de...
Il y avait beaucoup de musique, voilà. Ouais, effectivement, beaucoup de musique.
Différence entre
les parties. Moi, j'ai gardé encore en mémoire des offices religieux où j'ai assisté et en tant que chanteur de chœur, et je voyais la tête des gens qui priaient là, qui étaient pratiquement comme dans une salle de concert, parce que la musique était trop belle. Merci beaucoup, merci à tous, merci Léo pour tes interventions, merci à la technique, et merci cher public pour votre écoute attentive de chaque semaine. À la prochaine.